Alors, on a décidé avec Roselyne de changer un peu l'ordre de passage après la lecture des trois textes. On va commencer donc par Nathalie Dolez.
Alors, le titre de mon intervention, ça sera un choix imposé. Un choix imposé. Donc, à première vue, le terme de ségrégation est plus communément associé à une action subie que choisie. L'étymologie qui a été rappelée à plusieurs reprises, donc lors des séminaires précédents, ségrégarer, séparer du troupeau, mettre de côté des animaux, draine à son origine l'idée d'éloignement et d'isolement. On sait jusqu'où l'histoire, avec sa grande hache, a conduit le principe de sélection. En 1970, dans sa préface à une thèse, Lacan éclaire la ségrégation des camps sous l'angle de la déségrégation. Je le cite, « Le refus de la ségrégation est naturellement au principe du camp de concentration. » Commentant cette phrase, Michel Bousséroux écrit, je le cite, « que la ségrégation est certes la porte ouverte au racisme, à la discrimination, à l'exclusion, mais le camp de concentration ne discrimine plus, il rassemble, il concentre pour uniformiser, réduire le particulier et confondre l'un différentiel dans l'universel. » Logiquement, l'effacement systématique et radical de toute différence débouche sur la déségrégation. Choisir la ségrégation, se ségréguer, est-ce du ressort des identifications en s'agrégeant autour d'un trait unaire ? Lacan nous amène sur le terrain du réel en prenant les choses par le bout de la puissance. Avec cet angle d'approche, il souligne que ce qui porte un sujet à se séparer d'une communauté pour rejoindre un groupe, c'est se rassembler autour d'un mode de jouissance ordonné par un signifiant maître. Donc un sujet qui choisit de sortir du troupeau ne renonce pas à sa jouissance au profit de la jouissance de la foule. Il ne se règle pas sur le discours qui régit une organisation sociale, il ne s'y conforme pas, en d'autres termes, mais il choisit d'autres sujets supposés jouir comme lui pour s'isoler ensemble. S'isoler ensemble, le terme est de Lacan dans le séminaire 17, lorsqu'il se réfère au texte freudien « Totem et tabou » à propos, je cite Freud, du passage de la forme sociale caractérisée par la horde paternelle à la forme caractérisée par le clan fraternel. S'affranchir pour se rassembler sous l'égide d'un signifiant afin de partager une jouissance commune, ne peut nous faire oublier pour autant l'incompatibilité des jouissances et les inévitables grains de sable qui peuvent gripper les rouages communautaires. Peut-on considérer qu'une ségrégation choisie permette toujours un nouveau lien social ? Je laisse la question ouverte. En réfléchissant à ce sous-thème et en l'articulant au thème de la violence, la première ségrégation choisie à laquelle j'ai pensé, bruyante de nos jours, et la radicalisation religieuse. Le peu que j'ai pu apercevoir cliniquement concernant cette adhésion communautaire m'a semblé trop singulier pour élargir cette question. Chacun trouve sa solution face à l'offre de radicalisation à partir d'une rencontre, un livre, un documentaire, une personne. Les psychanalystes peuvent dire quelque chose sur leur époque et ses phénomènes collectifs, mais la clinique ou un par un du discours analytique nous rappelle toujours les formes sous-jacentes, potentiellement résistantes à une collectivité. Au-delà de la clinique, toujours singulière, la pérennité et la solidité d'un groupe choisi se mesurent à la puissance ségrégative qui lui fait face. Pour ce qui concerne les effets du discours capitaliste sur les par-lettres, la fragmentation du lien social qu'il propage favorise des agrégats de jouissance solidaire entre elles. Ces agrégats sont sans lien libidinal, contrairement à ce qui rassemble la foule freudienne. Comme le souligne Colette Solaire, c'est l'espace partagé qui fait office de regroupement au travers du cadre imaginaire de l'agrégat. Le discours capitaliste induit des regroupements de solitude aux liens précaires, qui ont peut-être l'illusion de s'être choisis. Alors j'ai voulu en fait explorer la question du côté de l'exil, de la violence et des langues pour ce soir. À chaque époque et à chaque société, son langage pour organiser les ségrégations et désigner les lieux de relégation. Les exilés d'aujourd'hui se ségrèguent dans des campements de migrants ou sont mis aux marges de la société dans des centres de rétention, dans des CADA, centres d'accueil des demandeurs d'asile, ou dans des CHU, centres d'hébergement d'urgence, pour ne citer que ces lieux. Comment un sujet ségrégué peut-il se déségréguer, s'extraire d'un lieu auquel on l'assigne et porter son choix, éventuellement, vers un autre type de ségrégation? Deux patients m'ont amené à m'interroger sur leur décision du rejet de leur langue maternelle au travers d'une prise étonnamment rapide dans une nouvelle langue, celle du pays d'accueil, très loin de leurs racines linguistiques. Est-ce un choix que j'appellerais électif, telle une affinité élective vers une langue, ou bien un choix de circonstance? La nécessité d'apprendre la langue d'un pays d'accueil ne favorise pas son apprentissage, la situation peut même renforcer des inhibitions. Ces deux patients auraient pu faire le choix de s'installer, entre guillemets, définitivement dans l'anglais, qu'ils maîtrisaient déjà, et se débrouiller suffisamment en français pour parer aux nécessités du quotidien. C'est un goût certain pour cette langue qui est apparu. Il ne s'agit sans doute pas là d'une véritable ségrégation, puisqu'elle ouvre l'horizon de ces deux sujets sur un ensemble plus vaste qu'un ensemble circonscrit par une jouissance commune. Mais s'isoler de sa communauté d'origine, de sa langue d'origine, avec d'autres qui parlent la langue des droits de l'homme, là je les cite tous les deux, a retenu mon attention. Ces deux patients ont fui les violences de leur pays et ont décidé de ne plus parler leur langue maternelle dans le lien social. Ils évitent rigoureusement les regroupements avec leurs compatriotes, exilés comme eux. Ils ont tous deux en commun l'expérience du déracinement et de la violence extrême suite à une mauvaise rencontre qui a duré plusieurs mois et qui les a conduits à sauver leur peau en s'exilant. Que la torture et la violence d'une manière générale induisent un effet d'exclusion de la communauté humaine se vérifie dans la parole des sujets qui ont fait cette expérience. Une exclusion en entraîne souvent d'autres. La précarité matérielle et juridique de ces patients renforce leur position aux marges de la société. Dans cette nudité de l'existence, où les semblants ont chuté et où l'accroche symbolique a été désarticulée, quelle parole peut s'articuler? La langue française inscrit un nouveau territoire. Elle est l'instrument de coupure définitive avec leur passé. Instrument qui seconde la volonté de s'extraire d'un groupe d'origine pour aller vers un nouveau groupe, pour chercher au travers d'un nouveau lien social une vie rallumée. Mettre à distance la jouissance d'une langue imposée qui s'est appauvrie en se resserrant au trou étroit du signifié, est-ce possible? La portée poétique d'une langue, au travers de ses équivoques, a été écrasée par les actes des tortionnaires, strictement équivalents aux menaces proférées. La langue maternelle est devenue en quelque sorte obscène. Ici, ce n'est pas la nostalgie de l'exilé politique qui se dit, ni les affects de deuil d'une terre perdue, mais la recherche d'un lieu où se regrouper avec d'autres, offert par l'exil géographique et linguistique. L'idéalisation est un moteur certain. Serge Côté, dans son article « Éloge d'une psychanalyse en langue étrangère », mentionne deux écrivains réfugiés politiques pour lesquels la langue a été aussi l'instrument d'une coupure définitive avec le passé. D'autres causes, bien sûr, peuvent être à l'origine d'un choix aussi radical. Beckett et Conrad n'étaient pas des exilés politiques. La langue, c'est ce qu'on ne quitte pas quand on part, soulignait Sylvain Laclastre lors de notre dernier séminaire sur le thème de la ségrégation. À lapsus, répété par deux fois dans une séance avec l'un de ses deux patients, desquels je suis partie, donc pour réfléchir, pour le thème de ce soir. Donc à lapsus, répété par deux fois dans une séance avec l'un de ses deux patients, lequel avait refusé l'interprète en farsi lors du premier entretien, donne un indice quant à l'impossibilité de s'extraire tout à fait de sa langue maternelle. « Je veux apprendre à bien écrire le farsi », répète-t-il, au lieu de le français. Pas d'homogénéité entre inconscient et langue maternelle, bien sûr. Cette langue première ne perd sans doute jamais son extraterritorialité sur une langue d'emprunt. La jouissance inhérente à la langue d'un parlètre, façonnée par les dépôts de jouissance d'une langue en sous-couche, n'est pas isolable de sa parole, fut-elle organisée par de nouvelles chaînes signifiantes émanant d'une deuxième langue, d'une deuxième grammaire. Le corps est affecté par le langage. Cette langue première, devenue étrangère et parasite, se rappelant au sujet dans les cauchemars répétitifs et les rappels diurnes de violence qui le dissocient, faute d'une inscription mémorielle, cette langue première, le sujet, ne le reconnaît plus qu'en un dire qui rappelle la souffrance. Qu'est-ce qu'apprendre une langue étrangère ? Je cite Colette Solène. C'est essayer d'entrer dans un autre dépôt, un autre cimetière, mémorial, où sont déposées des expériences vitales différentes. Se pose ici la tentative d'éradication d'un passé et l'ouverture libidinale dont parlait Louis Sitzkovitch, permise parfois par l'exil. L'érosion progressive de la langue maternelle peut-elle gagner du terrain à l'épreuve du silence, malgré l'inconscient qui parle dans les cauchemars? Cette érosion se renforce parfois jusqu'à l'effacement de l'accent, ordinairement charrié par le caractère tonal ou accentuel de la langue maternelle. Comme le souligne Hans Wismann, philologue et philosophe allemand, dans son ouvrage « Penser entre les langues », je le cite, « Quand il s'agit d'un terme, on peut très rapidement organiser un système dans lequel, du terme à terme, on a une sorte de structure intelligible. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un qui parle s'empare des possibilités que la langue lui offre et met en œuvre ce qu'on appelle son vouloir dire. Ce vouloir dire, inscrit dans le présent d'exil et dans le futur tourné vers la langue des droits de l'homme, étroitement lié à l'attente de la reconnaissance du statut de réfugié politique, est en évolution constante. La langue que ces deux patients se sont forgées était d'abord réduite au sens, ce repos de l'affect, comme le qualifie justement Wismann, puis s'est étoffée de manière impressionnante, au point de s'affranchir de plus en plus d'une existence traduite à partir de la langue première. Je relève que plus ces patients ont à disposition les mots et la syntaxe française, plus ils font l'expérience du mot qui manque, pour dire le réel. Plus ils progressent aussi dans la langue écrite, plus ils s'inscrivent dans l'équivoque d'une langue. L'idée qu'il puisse y avoir une seule langue dans laquelle on articulerait ce que l'on veut dire est un leurre que la psychanalyse a dévoilé. Le parlètre est toujours en manque de mots pour dire l'objet de sa jouissance et ce qu'il accomplit. S'extraire d'une grammaire commune, en faisant jouer une autre grammaire, permet une coupure nette, mais n'échappe pas plus au constat que le langage ne dit rien du réel. Tout au plus, comme le souligne Serge Côté, les patients exilés n'ont pas le loisir du bavardage. Mais dans les deux situations cliniques que j'évoque très partiellement ce soir, un passage prolongé vers le bavardage serait plutôt indiqué. Je conclus. Ces exils sans retour possible ont permis la rencontre avec un nouvel autre. Un autre certes idéalisé, celui d'une langue des droits de l'homme, garante de la liberté. Cette ségrégation linguistique a la particularité de déboucher sur un territoire où chacun jouit singulièrement du langage. La question contenue dans mon titre, « Un choix imposé », souligne le paradoxe du choix librement consenti d'une ségrégation. La jouissance s'impose au sujet plutôt qu'il ne la choisit. Jouir d'une langue qui n'est pas la sienne n'est certes plus affaire de ségrégation dès lors qu'elle devient une langue à soi,